Dans la salle de crise le lendemain, nous avons étudié une dernière fois les modalités d'une possible opération à Abbottabad le week-end suivant. Plus tôt dans la semaine, j'avais donné mon aval à McRaven pour envoyer les SEALs et les pilotes d'hélicoptères en Afghanistan, et le groupe était arrivé à Jalalabad où il attendait les ordres. Afin de recouper le travail de la CIA, Léon et Mike Morrell avaient demandé au chef du Centre National de l'Antiterrorisme, Mike Leiter, de faire examiner les données disponibles sur le complexe par un groupe d'analystes ignorant tout du dossier, pour voir si leurs conclusions correspondraient à celles de l'agence. L'équipe de Leiter a estimé entre 40 et 60% la probabilité que Ben Laden s'y trouve. La CIA, pour sa part, donnait entre 60 et 80%. Un débat s'est ensuivi pour déterminer l'origine de cet écart. Au bout de quelques minutes, j'ai interrompu la discussion. Je sais que nous nous efforçons d'être aussi précis que possible, ai-je dit, mais au bout du compte, c'est du 50-50. Avançons. McRaven nous a annoncé que les préparatifs du raid étaient terminés. Ses hommes et lui étaient prêts. De même, Cartwright nous a confirmé que le bombardement par drone avait été testé et pouvait être ordonné à tout moment. J'ai fait ensuite un tour de table pour recueillir l'avis de chacun. Léon, John Brennan et Mike Mullen avaient une préférence pour le raid. Hillary nous a dit qu'elle était très partagée, puis elle a énuméré prudemment les risques qu'entraînait le raid, notamment une rupture de nos relations avec le Pakistan ou un affrontement avec son armée. Elle a néanmoins conclu en disant que, cette piste étant la meilleure que nous ayons depuis des années pour arrêter Ben Laden, elle était favorable à l'envoi des SEALs. Gates, pour sa part, y était opposé, mais il était ouvert à une frappe par drone. Il a invoqué un précédent, l'opération Desert One en avril 1980, organisé pour sauver les 53 otages retenus en Iran et qui avait viré à la catastrophe quand un hélicoptère de l'armée américaine s'était écrasé dans le désert, causant la mort des 8 hommes d'équipage. Il fallait garder à l'esprit, nous a dit Gates, que toute la planification du monde ne pourrait jamais empêcher qu'une opération de ce type tourne au vinaigre. Au-delà du risque humain, il redoutait qu'un échec ait des répercussions négatives sur notre guerre en Afghanistan. Plus tôt dans la journée, j'avais annoncé le départ à la retraite de Bob après 4 années au poste de secrétaire à la Défense et mon intention de nommer Léon à sa suite. En écoutant ce raisonnement sensé et argumenté, je me suis rappelé combien sa présence m'avait été précieuse. Joe, lui aussi, s'est prononcé contre l'option du raid, au motif que le risque d'échec était trop élevé et que je ferais mieux d'attendre pour me décider que les services de renseignement aient confirmé que Ben Laden se trouvait dans le complexe. Comme chaque fois depuis le début de ma présidence qu'une décision importante se présentait, j'appréciais la capacité de Joe à faire un pas de côté et à poser les questions qui fâchent, souvent pour me dégager l'espace mental dont j'avais besoin pour mes délibérations intérieures. Je savais aussi que, tout comme Gates, il travaillait déjà à Washington pendant Desert One. Il en gardait certainement de vifs souvenirs. La douleur des familles, le coup porté au prestige des États-Unis, les récriminations, et Jimmy Carter, dépeint comme un homme à la fois faible et irréfléchi pour avoir autorisé cette mission. Politiquement, Carter ne s'en était jamais remis, et Joe sous-entendait qu'il en irait de même pour moi. J'ai déclaré au groupe que je lui communiquerais ma décision le lendemain matin. Si nous choisissions le raid, je voulais être sûr que McRaven dispose d'un créneau aussi large que possible pour déclencher l'opération. Tom Donilon m'a accompagné jusqu'au bureau ovale, son habituelle pile de dossiers et de carnets sous le bras, et nous avons rapidement parcouru la liste des actions que je pourrais avoir à entreprendre dans les prochains jours. Brennan et lui avaient préparé un scénario pour chaque éventualité ou presque, et sa tension et sa nervosité se lisaient sur son visage. 7 mois après que je l'avais nommé conseiller à la sécurité nationale, il avait décidé de faire davantage de sport et d'arrêter le café, une bataille qu'il était visiblement en train de perdre. J'étais impressionné par sa force de travail, par la foule de détails qu'il gardait constamment en tête, la quantité de mémos, de télégrammes et de données qu'il devait ingurgiter, le nombre de désastres qu'il réparait et de disputes interagences qu'il résolvait, tout cela pour me permettre d'avoir les informations et la concentration nécessaires à mon travail. Un jour, j'avais demandé à Tom d'où lui venait sa détermination et sa diligence, et il les avait attribuées à ses origines sociales. Il avait grandi dans une famille modeste, d'origine irlandaise, avait bûché pour entrer en fac de droit, puis travaillé sur diverses campagnes électorales et fini par devenir un poids lourd de la politique étrangère. Pourtant, malgré ses réussites, il m'avait confié avoir une peur viscérale de l'échec et ressentir constamment le besoin de faire ses preuves. J'avais éclaté de rire et répondu que je voyais tout à fait de quoi il parlait. Ce soir-là, au dîner, Michel et les filles étaient en grande forme et n'ont pas arrêté de me taquiner à propos de ce qu'elles appelaient mes manies. Je mangeais toujours les amandes par poignée après les avoir secouées au creux de mon poing. Je portais toujours la même paire de vieilles sandales usées dans la maison. Je n'aimais pas les sucreries. Votre père se méfie de tout ce qui est délicieux. C'est trop de plaisir pour lui. Je n'avais pas parlé à Michel de la décision que j'allais devoir prendre, car je ne voulais pas l'encombrer avec ce secret tant que moi-même j'hésitais, et si j'étais plus tendu qu'à l'ordinaire, elle n'a pas paru le remarquer. Après avoir couché les filles, je me suis replié dans la salle des traités, j'ai mis un match de basket à la télé, et j'ai suivi le ballon du regard en récapitulant une dernière fois les différents scénarios. En réalité, j'avais réduit le champ des possibles au moins 2 semaines plus tôt. Depuis lors, chaque réunion n'avait fait que confirmer mon intuition. Je n'étais pas favorable à une frappe aérienne, même aussi précise que celle imaginée par Cartwright. J'estimais que sans possibilité de confirmer que Ben Laden avait été tué, le jeu n'en valait pas la chandelle. En outre, je ne pensais pas qu'il soit utile d'accorder davantage de temps aux services de renseignement, dans la mesure où les mois que nous avions passés à surveiller le complexe ne nous avaient fourni aucune information supplémentaire. Et considérant tout le travail préliminaire qui avait déjà été accompli, je doutais que nous puissions garder le secret encore un mois. Une seule question demeurait donc. Fallait-il ou non ordonner le raid? Les enjeux étaient parfaitement clairs dans mon esprit. Je savais que nous pourrions limiter les risques, mais jamais les éliminer. J'avais une confiance absolue en Bill McRaven et dans les SEALs. Je savais que depuis Desert One et la bataille de Mogadiscio, les capacités de nos forces spéciales avaient été transformées. Malgré toutes les erreurs stratégiques et les politiques mal avisées qui avaient émaillé les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les hommes issus de ces forces spéciales avaient exécuté un grand nombre d'opérations et savaient se comporter dans presque toutes les situations imaginables. Étant donné leurs compétences et leur professionnalisme, j'étais convaincu que les SEALs parviendraient à sortir d'Abbottabad, même si certains de nos calculs et suppositions se révélaient erronés. J'ai regardé Kobe Bryant réaliser un tir sauté dans la raquette. Les Lakers de Los Angeles affrontaient les Hornets de Charlotte, bien partis pour remporter le premier tour des séries éliminatoires. Contre le mur de la salle à manger, l'horloge comptoise marquait le temps. En 2 ans, j'avais pris je ne sais combien de décisions, au sujet des banques, de Chrysler, des pirates, de l'Afghanistan, de la santé. La possibilité de l'échec était devenue une présence habituelle, que je ne remarquais presque plus. Chaque fois avant d'agir, j'avais évalué les probabilités, calmement et souvent tard le soir, dans cette même pièce. Je savais que je n'aurais pu avoir de meilleur modus operandi pour soupeser ces éventualités, ni de meilleur entourage pour m'y aider. Je me rendais compte que toutes les erreurs que j'avais commises et toutes les ornières dont j'avais dû nous tirer m'avaient, à leur manière, préparé à cet instant. Et même si je ne pouvais préjuger des résultats de ma décision, j'étais parfaitement confiant et prêt à la prendre. La journée du lendemain, vendredi 29 avril, était consacrée à un déplacement. Je devais me rendre à Tuscaloosa, en Alabama, pour constater les dégâts causés par une tornade dévastatrice, après quoi je prononcerai un discours de remise de diplôme à Miami. Entre-temps, il était prévu que j'emmène Michel et les filles à Cap Canaveral pour assister au dernier lancement de la navette spatiale Endeavour, qui serait ensuite mise hors service. Avant de partir, j'ai envoyé un email à Tom, Dennis, Daly et Brennan en leur demandant de me retrouver dans le salon des diplomates. Ils m'y ont rejoint tandis que Michel et les filles sortaient sur la pelouse sud où nous attendait Marine One. Avec le rugissement de l'appareil en fond sonore, doublé par les chamailleries de Sacha et Malia, j'ai officiellement donné mon feu vert à la mission d'Abbottabad, en soulignant que c'était McRaven qui avait le contrôle opérationnel et qu'il lui appartiendrait de déterminer le minutage précis du raid. L'opération était désormais entre d'autres mains que les miennes. J'étais content de quitter un peu Washington, ne serait-ce que pour une journée, de me concentrer sur un travail différent et d'admirer celui d'autres personnes. Plus tôt dans la semaine, une monstrueuse supercellule orageuse avait fondu sur les États du Sud-Est, provoquant des tornades qui avaient fait plus de 300 morts, soit la catastrophe naturelle la plus meurtrière depuis l'ouragan Katrina. Une tornade large de 2 km, avec des vents dépassant les 300 km à l'heure, avait traversé l'Alabama, détruisant sur son passage des milliers de maisons et de commerces. À l'aéroport de Tuscaloosa, j'ai été accueilli par le directeur de la FEMA, un solide et placide floridien nommé Craig Fugate, ainsi que par des représentants de l'État et de la ville, avec qui nous avons fait le tour de plusieurs quartiers qui paraissaient avoir été soufflés par une bombe nucléaire. Nous avons visité un centre d'hébergement pour les familles qui avaient tout perdu. Malgré la situation, Presque toutes les personnes à qui j'ai pu parler, aussi bien le gouverneur républicain qu'une mère réconfortant un petit enfant, ont vanté le dispositif fédéral mis en œuvre, et notamment la rapidité des équipes d'intervention, l'efficacité de leur collaboration avec les pouvoirs locaux, la précision et le soin avec lesquels elles avaient répondu à toutes les demandes, même les plus anodines. Cela ne me surprenait pas, car Fugate était une de mes meilleures recrues. C'était un fonctionnaire pragmatique, humble et droit dans ses bottes, fort de plusieurs décennies d'expérience dans les catastrophes naturelles et leurs conséquences. J'étais tout de même content de voir ses efforts reconnus, et cela m'a rappelé une fois de plus combien l'administration repose sur les actes quotidiens et discrets de ces personnes qui ne cherchent pas l'attention, mais savent ce qu'elles font et le font avec fierté. À Cap Canaveral, nous avons eu la déception d'apprendre que la NASA avait dû annuler le lancement à la dernière minute en raison d'une défaillance dans le système électrique. Notre famille a néanmoins pu s'entretenir avec les astronautes et passer un moment avec Janet Cavendi, la directrice des vols habités au Centre spatial Johnson à Houston, qui était venue en Floride pour le lancement. Enfant, l'exploration spatiale me fascinait, au point que, une fois élu, j'avais saisi toutes les occasions pour mettre en avant les sciences et les techniques, en créant par exemple la foire scientifique annuelle de la Maison Blanche, qui offrait à des jeunes une occasion d'exposer leurs robots, leurs fusées et leurs voitures solaires. J'avais aussi encouragé la NASA à innover dans la conception d'une future mission martienne, en s'associant notamment avec le secteur privé pour le voyage en orbite basse. Et à présent, je regardais Malia et Sacha écouter ébahis Janet Cavendi qui leur détaillait l'immense travail nécessaire à un seul lancement, avant de leur décrire son parcours, celui d'une jeune fille captivée par le ciel nocturne au-dessus de la ferme parentale dans le Missouri, qui était devenue astronaute et avait réalisé 3 missions à bord de la navette spatiale. La dernière étape de ma journée était la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de Miami-Dade College. Cet établissement d'enseignement supérieur proposait des cursus courts et professionnalisants et avec plus de 170 000 étudiants sur 8 campus, était le plus grand du pays. Son président, Eduardo Padron, l'avait fréquenté dans les années 1960, à l'époque où, jeune immigré cubain, il parlait un anglais rudimentaire et n'avait pas les moyens d'étudier ailleurs. Sorti de Dade avec un diplôme en poche, il avait ensuite décroché un doctorat d'économie à l'université de Floride, puis avait refusé des postes lucratifs dans le secteur privé pour revenir à Dade, où, depuis 40 ans, il se donnait pour mission d'aider les autres autant que cet établissement l'avait aidé. Il en parlait comme d'une fabrique à rêves pour ses étudiants, surtout issus de familles pauvres, hispaniques, noires ou immigrées, dans lesquelles, le plus souvent, personne avant eux n'avait fait d'études supérieures. « On ne laisse tomber personne », a-t-il conclu. « Et si on fait bien notre travail, eux non plus ne laisseront pas tomber. » La générosité de sa vision m'a réchauffé le cœur. Dans mon allocution ce soir-là, j'ai parlé aux étudiants de leur réussite et de l'idée fondatrice des États-Unis dans laquelle elle s'inscrivait, de la détermination de chacun à transcender sa naissance et de notre capacité collective à dépasser nos différences pour relever les défis de notre époque. Je leur ai ensuite raconté un souvenir d'enfance, un jour où, assis sur les épaules de mon grand-père, j'avais agité un petit drapeau américain au milieu de la foule compacte venue accueillir l'équipage d'une mission Apollo qui avait amerri au large de Hawaï. J'ai dit à ces nouveaux diplômés que, une quarantaine d'années plus tard, je venais d'assister à la rencontre de mes filles avec une nouvelle génération d'explorateurs de l'espace. Cet épisode m'avait fait réfléchir à tout ce que les États-Unis avaient fait pour moi. Il m'avait montré que la vie est un cycle, et il était une preuve, au même titre que leur diplôme ou mon élection, que l'idée fondatrice des États-Unis était toujours vivace. Les étudiants et leurs parents ont applaudi. Beaucoup d'entre eux agitaient aussi des drapeaux américains. J'ai pensé au pays que je venais de leur décrire, un pays d'espoir, de générosité et de courage, un pays ouvert à tous. Quand j'avais à peu près l'âge de ces jeunes gens, je m'étais accroché à cette idée de toutes mes forces. Je voulais qu'elle soit vraie, plus encore pour eux que pour moi. Après ce voyage qui m'avait empli d'énergie et d'optimisme, je savais que la soirée du lendemain serait moins stimulante, car Michel et moi devions assister au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Cet événement, organisé par l'Association des correspondants de presse et auquel le président assistait au moins une fois par mandat depuis l'époque de Calvin Coolidge dans les années 1920, avait été conçu comme une occasion pour les journalistes et les personnes qu'ils suivaient de mettre de côté leurs différences et oppositions le temps d'une soirée de détente. Mais avec les années, les milieux de l'information et du divertissement se confondant, ce rassemblement annuel s'était mué en un équivalent washingtonien des Oscars ou du gala du Met. Il était désormais animé par un humoriste et retransmis sur le câble. Et 2000 journalistes, politiciens, grands patrons et membres du gouvernement, ainsi qu'un éventail de célébrités hollywoodiennes, s'entassaient dans une salle de bal exiguë pour étendre leur réseau, se faire voir et écouter le président déclamer une espèce de sketch dans lequel il se moquait de ses adversaires et plaisantait à propos de l'actualité du jour. Dans une période où, aux quatre coins du pays, les Américains avaient du mal à trouver du travail, à garder leur maison ou à payer leurs factures à cause de la récession, ma participation à ce pince-fesse, avec son entre-soi, son tapis rouge et son extravagance, me paraissait politiquement maladroit. Mais puisque j'avais assisté les deux années précédentes, je ne pouvais pas me permettre d'éveiller les soupçons en annulant ma participation au dernier moment. J'allais devoir me présenter devant une assemblée de journalistes et faire comme si de rien n'était, comme si je ne pensais pas constamment à Mac Raven qui allait bientôt rejoindre les SEALs à Jalalabad et pouvait déclencher l'opération quelques heures plus tard. Coup de chance, la plus grande distraction du moment avait été conviée à s'asseoir à la table du Washington Post. Et pour ceux d'entre nous qui savaient, nous étions curieusement rassurés de nous dire que dès l'instant où Donald Trump ferait son entrée, il serait pratiquement certain que personne ne penserait au Pakistan. Dans une certaine mesure, la diffusion de mon acte de naissance intégral et mes réprimandes à la presse avaient eu l'effet escompté. De mauvaise grâce, Donald Trump avait admis que j'étais bien né à Hawaï, tout en se félicitant de m'avoir obligé, au nom du peuple américain, à lever tous les doutes. La controverse restait cependant présente dans les esprits, et j'en avais eu l'illustration ce samedi-là lorsque, entre deux points avec mon équipe de sécurité nationale, j'avais vu John Favreau et les auteurs qui avaient travaillé sur mon intervention, aucun d'eux n'étant au courant de l'opération qui se préparait. Le monologue qu'il m'avait écrit était plutôt inspiré, mais je butais sur une phrase qui ridiculisait le birtherisme en sous-entendant que Tim Pawlenty, l'ancien gouverneur du Minnesota qui avait des ambitions présidentielles, dissimulait que son vrai nom était Tim Ben Laden Pawlenty. J'ai demandé à Favs de remplacer Ben Laden par Hosni, arguant que cela collerait mieux à l'actualité. J'ai bien senti qu'il ne voyait pas cette correction comme une amélioration, mais il n'a pas protesté. En fin d'après-midi, lorsque j'ai passé un dernier coup de téléphone à Mac Raven, il m'a annoncé que, du fait d'un temps brumeux au Pakistan, il comptait attendre le dimanche soir pour déclencher l'opération. Il m'a assuré que tout était en ordre et son équipe prête. Je lui ai répondu que ce n'était pas pour cela que je l'appelais. « Dites à vos hommes toute l'estime que j'ai pour eux », lui ai-je demandé. « Oui, monsieur. » « Bill, ai-je insisté sans trouver les mots pour lui communiquer ce que j'éprouvais. « J'y tiens vraiment, dites-leur. Je le ferai, monsieur le président. » Ce soir-là, Michel et moi avons été conduits au Hilton de Washington, où nous avons été photographiés avec diverses personnalités et sommes restés assis 2 heures sur une estrade pendant que les invités, Rupert Murdoch, Sean Penn, John Benner ou encore Scarlett Johansson, faisaient connaissance en buvant du vin et en mangeant des steaks trop cuits. J'ai plaqué un sourire aimable sur mon visage tandis que mon esprit, sur la corde raide, était à des milliers de kilomètres de là. Lorsqu'est venu mon tour de prendre la parole, je me suis levé et j'ai fait mon numéro. Arrivé à la moitié de mon monologue, je me suis tourné directement vers Trump. Je sais qu'il a essuyé quelques critiques dernièrement, ai-je dit, mais personne n'est plus heureux et plus fier que notre ami Donald de pouvoir tirer un trait sur cette histoire d'acte de naissance. Parce que maintenant, il va pouvoir recommencer à se concentrer sur les vraies questions. Est-ce que nous sommes vraiment allés sur la Lune? Que s'est-il réellement passé à Roswell? Et qu'est-il arrivé aux rappeurs Biggie et Tupac? Un rire a parcouru l'assistance et j'ai poursuivi sur le même ton, relevant les qualifications et les vastes connaissances qu'il avait acquises en présentant l'émission The Celebrity Apprentice, avant de le féliciter pour sa réaction avisée lors de l'épisode dans lequel l'équipe des hommes n'avait pas réussi à impressionner les juges du grill Omaha Steaks. C'est le genre de décision qui pourrait me faire perdre le sommeil. Bravo monsieur, je vous tire mon chapeau. L'assistance riait aux éclats. Au milieu, Trump, muet, souriait jaune. Je n'imaginais même pas les pensées qui avaient pu le traverser pendant les quelques minutes où je l'avais mis en boîte devant tout le monde. Ce dont j'étais sûr, c'est qu'il savait faire le spectacle, et que, en 2011, aux États-Unis, cela constituait en soi une forme de pouvoir. La monnaie avec laquelle commerçait Trump, quoique superficielle, semblait prendre chaque jour un peu plus de valeur. Les journalistes qui riaient à mes blagues continueraient à l'inviter. Leurs employeurs se battraient pour l'avoir à leur table. Loin d'être ostracisé à cause des conspirations qu'il avait colportées, il apparaissait au contraire plus influent que jamais.